RTL Info.
Adrien Juvet.
Bonjour, les propriétaires des chalets situés dans la Grande Carissée iront jusqu'au bout. Le canton de Vaud a ordonné la destruction de 17 biens d'ici au 1er juillet de l'année prochaine. L'association de défense de ces constructions dénonce un déficit démocratique. Les élections fédérales ont rythmé la fin d'été et le début d'automne dans tout le pays. Et ce n'est pas terminé, puisque le canton de Berne et d'autres cantons alémaniques désignent ce dimanche leur sénateur lors d'un second tour. Analyse dans ce journal. 4 mois après la mortifiante défaite en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, Roger Federer s'apprête à retrouver ce soir le Serbe pour un nouveau match à gros enjeux en quart de finale du Masters de Londres. C'est la fête à la grisaille pour l'instant dans le ciel de la région. Le temps devrait rester sec. Des flocons ne sont pas exclus cet après-midi. Un peu plus de précipitations sont au programme de la nuit prochaine. Les bénéficiaires de subsides toucheront plus en 2020. L'enveloppe du canton de Neuchâtel connaîtra une augmentation de 3,6% pour faire face à la hausse des primes d'assurance maladie. En 2020, c'est 132 millions de francs qui seront alloués à cette aide contre 127 en 2019. Un montant qui correspond à ce que le Conseil d'État avait inscrit dans son projet de budget. L'année prochaine, le subside mensuel maximal pour un adulte passera de 475 à 487 francs. Les seuils d'octroi pour bénéficier de subsides ne connaîtront en revanche pas de changement. L'association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel monte au front. L'Art Sud s'insurge contre la mise à mort par le canton de Vaud de 17 chalets situés dans la Grande Carissée d'ici au 1er juillet de l'année prochaine. Elle dénonce cette manière de faire. Elle estime que le processus politique n'est pas terminé. Selon l'association, cette procédure administrative ne prend pas en compte les 2 pétitions remises en octobre de l'année passée au Parlement vaudois et fribourgeois. Les 2 textes demandent aux autorités de revenir au compromis voté en 2007 et 2008, à savoir la signature de contrats nature permettant le sauvetage de ces quelques 200 chalets. Or, ni le Grand Conseil vaudois, ni celui de Fribourg ne se sont prononcés sur ces pétitions. L'Art Sud se dit prête à aller jusqu'au bout. Son vice-président, Julien Spaccio.
Il y a un combat politique qui reste, donc c'est vraiment que si la décision au Grand Conseil, si les pétitions sont traitées au Grand Conseil et ils votent le maintien des chalets, ben évidemment qu'on ne va pas démolir les chalets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avant tout, c'est une décision politique qu'il faut avoir. Et ensuite, ben ma foi, ce sera les voies de recours qui sont petites, hein, si c'est vraiment un bail comme ils ont analysé, ben c'est l'autorité de conciliation, de saisir dans les 30 jours, en fait, et puis etc. etc. Et puis là, on entrera en fait dans une bataille, mais qu'on sait déjà qu'on va perdre à l'avance.
Est-ce que c'est envisageable que les propriétaires ne détruisent pas leur chalet pour le 1er juillet de l'année prochaine?
Ah mais ça c'est plus que certain. Personne ne va détruire ce chalet pour le 1er juillet de l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Je ne peux pas parler au nom de tous les propriétaires, mais la consigne qui va être donnée, c'est de ne pas détruire ce chalet. Et puis, disons, je crois qu'il y a une autre aussi forme, c'est que si le Conseil d'État veut contourner le Grand Conseil et que le Grand Conseil ne dit rien, eh bien, vous savez quoi, puisqu'on a fait 22 000 quand même signatures pour le maintien de ces chalets, on va faire peut-être une initiative populaire.
Julien Spaccio, le vice-président de l'association des riverains de la rive sud du lac de Neuchâtel, interrogé par Sarah Massy. Le sursis est confirmé pour le vieux collège d'Hauterive. Le comité référendaire qui s'oppose à sa destruction, décidé par le Conseil général en septembre dernier, a déposé 487 signatures valables à l'administration communale. Ce chiffre de 487 paraphes a été communiqué ce matin par l'administration. Il fallait 207 signatures pour faire aboutir le référendum. Les citoyens se prononceront le 9 février s'ils entendent sauver ou non ce vieux collège. La Suisse a un problème de pouvoir d'achat aux yeux de l'Union syndicale suisse. Le syndicat réclame des hausses salariales substantielles pour faire face au fardeau des primes d'assurance maladie sur les bas et moyens revenus. Le syndicat propose 10 mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux Suisses, outre des hausses de salaire. Le syndicat réclame notamment un 13e salaire pour tout le monde et davantage de conventions collectives de travail. Avoir le suspense et les surprises qui ont marqué les seconds tours de l'élection au Conseil des États en Suisse romande, c'est avec beaucoup de curiosité qu'on suivra les joutes électorales dans le reste de la Suisse. Ce dimanche, six cantons désignent leur sénateur lors d'un second tour. Il s'agit de Berne, Zurich, Le Tessin, Soleure, Saint-Gall et Zoug. Tour d'horizon des enjeux avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
Les regards sont tournés vers le canton de Berne avec un quatuor de prétendants pour deux places. Au premier tour, le duo de gauche Hans Schöckli-Regularitz l'avait emporté d'un cheveu devant l'UDC Werner Salzmann qui fait désormais liste commune avec la radicale Christa Marc-Walder. L'issue du scrutin est très incertaine. Si Hans Schöckli et Regularitz devaient passer la rampe, nous aurions une situation à la genevoise. Deux élus de gauche au Conseil des États alors que le Grand Conseil et le Conseil d'État de ces deux cantons sont dominés par la droite. À Zurich, le socialiste Daniel Josi a été réélu au premier tour. Après le retrait de l'UDC, Roger Köppel, le second tour oppose le favori sortant PLR Rued Inoser à la nouvelle égérie verte Mariona Schlatter.
Et puis au Tessin, quatre candidats sont dans un mouchoir de poche. On retrouve Serge Jubin.
Le sortant PDC, Filippo Lombardi, devrait franchir le cap. Avec qui ? Les Tessinois choisiront entre l'UDC Marco Chiesa, le PLR Giovanni Merlini et la socialiste Marina Carobbio. À Soleure, le PDC, Pirmin Bischoff, a été réélu dès le premier tour. Comme en 2015, l'autre sortant, le socialiste Roberto Zanetti, doit défendre sa place face à l'UDC Christian Imark. À Saint-Gall, les sortants PDC, Benedikt Würth et socialiste Paul Rechsteiner sont favoris. Mais l'UDC Rino Büchel, soutenu par le PLR, entend bousculer la hiérarchie. À Zoug, enfin, trois prétendants pour un seul siège, avec une candidate verte en embuscade face à un PLR et un PDC au coude à coude. Trois cantons éliront leurs sénateurs une semaine plus tard, le 24 novembre, Argovie, Bâle-Campagne et Schwitz.
À l'étranger, Israël aurait tué la nuit dernière un commandant du djihad islamique alors que lors d'une frappe sur une maison de Gaza, frappe au cours de laquelle 8 membres d'une même famille palestinienne ont été tués selon des responsables palestiniens. Un cessez-le-feu fragile est entré en vigueur ce matin. Les écoles et les universités de Hong Kong sont restées fermées aujourd'hui. La mégapole demeure paralysée pour le quatrième jour consécutif après des actions des manifestants pro-démocratie qui ont entravé la circulation. Les tensions sont montées d'un cran lorsque le tabloïd en langue anglaise Global Times a annoncé un couvre-feu pour le week-end. Le tweet du journal a depuis été supprimé sans explication. Washington est en ébullition. Les premières auditions télévisées en lien avec la procédure de destitution du président Donald Trump se sont tenues hier dans la capitale des États-Unis. Deux diplomates ont démarré ces séances de questions-réponses avec des membres du Congrès américain, William Taylor, chargé d'affaires américaines à Kiev, et George Kent, haut responsable du département d'État spécialiste de l'Ukraine. Compte rendu de la journée avec notre correspondant à Washington, Claude Porcella.
Ce fut un match de ping-pong entre les démocrates pro-destitution et les républicains pro-Trump. Les démocrates ont mis en valeur l'intégrité et le patriotisme de deux hauts fonctionnaires irréprochables. William Taylor a révélé une information qu'il ne connaissait pas lors de sa première audition. Ses collaborateurs ont entendu dans un restaurant de Kiev une conversation entre l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, et Trump. Quand ils lui ont demandé ce que le président pensait de l'Ukraine, il leur a répondu que Trump était plus intéressé par l'enquête sur Joe Biden. Les républicains, pour leur part, ont tenté de saper les arguments des témoins. Comme vous n'étiez pas présent lors de l'appel du 25 juillet, toutes vos informations sont de deuxième, troisième ou quatrième main et donc sujettes à caution, ont-ils dit en substance. Qui a gagné le premier round ? Chaque parti déclare avoir mis l'autre au tapis. Quant à Donald Trump, qui a prétendu être trop occupé pour suivre le débat, il continue de déclarer que c'est une farce, une chasse aux sorcières.
RTN 12h24. Sport. C'est une affiche de finale de Grand Chelem qui prend des allures de quart de finale du Masters. Roger Federer va défier Novak Djokovic ce soir à 21h à Londres. Le vainqueur de ce duel sera qualifié pour les demi-finales du tournoi de tennis des maîtres. Le perdant sera lui éliminé. Le Suisse et le Serbe vont s'affronter pour la 49e fois sur le circuit ATP. Autant dire qu'ils se connaissent par cœur et qu'ils savent comment aborder cette rencontre. Roger Federer.
Faut être serein et sûr de ce que tu veux faire. Forcément, si tu doutes, ça passera pas parce qu'il met trop de balles dans le jeu avec ses capacités sur le retour. Il sert un gros pourcentage de première balle. Il rate peu de balles du fond de court. Alors, si tu veux jouer bien contre lui, il faut le bien faire en attaque, mais aussi avec la bonne balance, aussi être prêt pour se battre en défense un peu. Et ce jeu, il faut le refaire plein de fois et lui montrer que ça va pas être simple pour lui. Forcément, débuter le match d'une bonne façon, ça aide. Je sais aussi que gagner le premier set, c'est important contre lui. Et en tout cas, physiquement, je vais très bien. Mentalement, j'ai super envie de le jouer. Et j'espère que ce match contre Berrettini me donne cette motivation et aussi cette confiance que j'ai besoin contre lui.
Roger Federer face à Novak Djokovic, c'est ce soir à 21h à Londres et vous entendrez des réactions du Balois demain matin dans la matinale. La Bulgarie remplacera la Suisse dans la nouvelle ATP Cup qui a lieu du 3 au 12 janvier 2020 en Australie. Les 6 dernières équipes participantes ont été dévoilées aujourd'hui. L'équipe bulgare sera emmenée par Grigor Dimitrov. La Suisse, qui avait son ticket en poche, a dû renoncer à la compétition en raison du retrait de Roger Federer pour des raisons familiale. En natation, le champion olympique chinois Sun Yang risque gros devant le tribunal arbitral du sport. Alors qu'il comparaît aujourd'hui, il devrait certainement être sanctionné pour un contrôle antidopage rocambolesque au cours duquel il avait détruit son échantillon avec un marteau. Pour ces faits, l'Agence mondiale antidopage réclame une suspension qui peut aller de 2 à 8 ans. Le chinois, qui est 3 fois champion olympique et 11 fois champion du monde, avait déjà été suspendu pendant 3 mois pour dopage en 2014.
C'est quand même beau le sport. 12h27 sur RTN.
La météo avec votre garage Émile Frey à La Chaux-de-Fonds, le plus grand choix de véhicules hybrides de la région.
Il y a une grosse perturbation, on appelle ça un système dépressionnaire qui va plonger dès aujourd'hui sur le sud de la France puis vers l'Italie et qui devrait amener une dégradation avec de la pluie et de la neige. Normalement, si vous avez prévu de passer le week-end en Valais, vous devriez avoir de la neige, c'est sûr. Pour nous, un peu plus haut, ça devrait mieux se passer, ou moins bien, ça dépend si vous aimez la neige ou pas. 2 à 5 degrés aujourd'hui, avec un temps gris et de la pluie. Plus de luminosité demain, mais probablement quand même de la pluie sur notre région. Et puis, pour le week-end, on nous annonce un temps variable, mais généralement sec. Ça va être frais tout de même.